Octave Mirbeau, La pipe de cidre. Quand nous eûmes fini de déjeuner, Maître L'Herbeau, notre hôte, un des plus gros fermiers du Perche, nous invita à visiter son cellier. Vous allez voir une chose rare, une drôle de chose, ben drôle, nous dit-il. Ce qui était drôle surtout, c'était cette idée bizarre qui lui avait poussé tout à coup, après boire, et un jour d'ouverture de chasse, où toutes les minutes sont comptées. Nous aurions mieux aimé retourner à la poursuite des perdreaux et des lièvres. Mais il était entêté, le père Lormeau. De plus, son entêtement naturel se compliquait en cet instant d'une légère griserie. Malgré notre visible mécontentement, il insista, il exigea, et force nous fut de passer par là où il voulait. « Vous regretterez point d'avoir vu ça, » ne cessa de répéter le bonhomme en nous conduisant au cellier, « parce que c'est une chose tout à fait drôle. Des perdreaux, des lièvres, il y en a toujours, mais le gibier que je vais vous montrer, personne dans le pays, ni ailleurs nulle part, ne peut se vanter d'avoir son pareil. Oh, dame, non !» Le cellier nous parut semblable à tous les celliers. C'était une vaste pièce, sombre, très fraîche, au fond de laquelle une vingtaine de grosses pipes de cidre étaient rangées symétriquement sur de solides charretiers. Dans un coin, gisait l'armature démontée d'un pressoir. Ailleurs, c'était des rangées de cercles neufs et un tas de vieilles douves pourries et encore des poulains, instruments de bois qui servent à décharger les lourdes futailles de puyennes. Une odeur aigre de marc ranci exhalait de tout cela. Oh, nous y voilà, fit Maître Lormeau. Attention! Mais soudain il sembla se raviser, et durant quelques secondes se gratta la tête, songeur et perplexe. J'ai peut-être tort de vous faire voir ça, murmura-t-il, parce que c'est point une chose naturelle. Enfin, vous êtes des amis, pas vrai, des bons garçons. Vous n'irez pas jaser là-dessus à droite et à gauche. Quand vous serez sorti d'ici, allez, ni vu ni connu, hein. Serait-il comme ça ? Nous flairions une mystification, comme les paysans en état de gaieté aiment parfois à en inventer. Pourtant, ces paroles, ces précautions du père Lormeau, nous intriguaient un peu. Serait-il comme ça ? Répéta le fermier. Plein de loups l'assura qu'il pouvait compter sur notre discrétion. « Eh ben dans ce cas, vous allez voir une chose bien drôle. Je vous dis que ça. » Il se dirigea vers la pipe du milieu, la plus grosse, la plus large de toutes, et dont la façon d'être barbouillée d'une sorte de croix noire au goudron. « Savez-vous bien ce qu'il y a dans cette pipe ? » nous demanda-t-il. « Du cidre ? » répondit quelqu'un. Le bonhomme haussa les épaules. Du cidre, bien sûr que c'est du cidre. Mais savez-vous bien ce qu'il y a dans le cidre ? Des pommes, criâmes-nous en chœur. Des pommes, bien sûr que c'est des pommes. Vous êtes bien malins, mes beaux messieurs. « Allons, Maître Lormeau, ne vous fâchez pas, et dites-nous bien vite ce qu'il y a dans votre cidre. » Le vieux fermier nous examinait d'un regard oblique et méfiant. « Et si je vous le disais pas, fit-il, vous seriez attrapé, hein, vous bisqueriez. » Avec tout cela, le temps passait, et par la porte ouverte du cellier, nous arrivaient des bruits lointains de coups de feu. « Père Lormeau, dis-je, nous ne savons point ce qu'il y a dans cette cidre. Dans votre cidre, nous voulons de le savoir, parce que ça doit être très curieux. »« Si c'est curieux, oh oui, c'est curieux. Personne n'a une chose curieuse comme celle-là. Faudrait peut-être faire le tour de la terre avant d'en rencontrer une pareille. »« Matin, oui, c'est curieux, oh bon sang, oh mazette. » Voyons, père Lormeau, dites-le vite. » Le vieux réfléchit un instant, dodelina de la tête, Ouais, c'est bien entendu, hein. Vous irez point conter ça au gars de Paris, hein. C'est ici comme à confesse. Oui, Père Lormeau. Eh ben, mes gars, dans cette pipe-là, dans ce cidre-là, il y a un homme, nous nous récriâmes. En vérité du bon Dieu, il y a un homme dans cette pipe-là, dans ce cidre-là, un homme qui est haut, qui est gros, un homme, oh, si tant est qu'un Prussien, sauf votre respect, soyez un homme comme vous, comme moi, comme tout le monde. Je vais vous le dire, je suis sûr qu'il y a un homme là-dedans, parce que c'est moi qui l'ai mis, avec son sabre, son casque, ses bottes et tout. Il est là-dedans, attendez donc, il est là-dedans, depuis, oh, mettre leur bon compte sur ses doigts. Puis 17 ans. Il y aura 17 ans au mois de novembre. Allez, approchez-vous. Tapez sur la pipe. C'est pas ordinaire, hein, de taper sur une pipe de cidre où il y a un homme de 17 ans. Allez, approchez-vous. Et il ajouta en ricanant. On pourra toujours pas dire que celui-là n'a pas été baptisé. Approchez-vous donc. Nous étions consternés et nous regardions la pipe. Il nous semblait voir, sous ses douves pacifiques, flotter dans le liquide jaune des masses de chair informes et gluantes qui avaient été autrefois une créature humaine. Le père Lormeau revint près de nous. Il nous parut qu'il était alors dégrisé. « Bon, on dit dans les journaux que nous allons encore avoir la guerre, » dit-il. Et désignant l'homme pipe, « C'est pourtant une chose triste que la guerre. Oh, ben triste !» Mais qu'est-ce que vous voulez? Ben voilà l'histoire de ce pauvre bougre-là. C'était comme de juste en 1870. Nous n'avions point encore vu de Prussiens dans le pays. Mais on savait qu'ils étaient pas loin. Un jour, tout de même, je vais porter du fumier dans les champs, et pendant que je déchargeais le tombereau, je vois venir de loin un homme à cheval, qui était tout blanc et qui avait sur la tête quelque chose qui reluisait. Je pensais, cet homme-là, bien sûr, c'est un Prussien. Il arrive sans doute pour me tuer. Et en quelque temps de galop, il fut arrivé près de moi. Il arrêta son cheval, mit pied à terre. Par lui, il n'avait point une trop méchante figure pour un Prussien. Et le voilà qui me baragouine à tant de choses que j'entendais point. Comme de juste. Pourtant, je compris qu'il s'était égaré et qu'il dordait son chemin. Même qu'il tira une bourse de sa culotte et qu'il me montra des pièces de monnaie. Il m'offrait sans doute de le conduire. Ben, écoutez, messieurs, je suis point un méchant homme, et je ferai pas de mal à une mouche. Même là, la colère qui me prend et me monte aux oreilles. C'était peut-être parce que mes deux gars étaient partis à la guerre et que j'en avais pas de nouvelles. C'était peut-être parce que je me disais que les Prussiens allaient venir dévaster nos champs et nos maisons. Enfin, je ne sais pas pourquoi, je saisis ma fourche à deux mains et toutes mes forces, avec rage, je frappe l'homme. L'homme tombe et je l'achève en lui enfonçant ma fourche dans la poitrine. C'est drôle tout de même ces choses-là. Sur le moment, ça me fait pas plus d'émotion que j'avais enfoncé ma fourche dans du fumier. Je pouvais pas laisser cet homme-là dans le champ, parce que les autres l'auraient trouvé, dame. C'était ma peau, n'est-ce pas? Le cheval, lui, était reparti en galopant, en hennissant. Alors je chargeais l'homme dans le tombereau, mis du fumier par-dessus lui, et je rentrais à la ferme. S'il faut tout vous dire, je n'étais pas trop fier. Non, cet homme, ce Prussien, me gênait. Qu'est-ce que j'allais en faire? Alors je pensais d'abord à l'enterrer, mais j'avais entendu dire que les Prussiens fouillaient la terre autour des maisons pour y découvrir les provisions cachées. Et puis je me méfiais des chiens qui sentent les cadavres et qui vont gratter le sol au-dessus d'eux. Vraiment, j'avais du regret maintenant. Fallait pourtant que je m'en débarrasse, car les Prussiens pouvaient arriver d'un moment à l'autre. Alors voilà ce que je fis. La nuit, je me relevais, je transportais le militaire dans l'alcellier, Je démontais ma plus grosse pipe de cidre, je mis l'homme dedans, je la remontais, la replaçais sur le chantier, et par la bande, je fis couler du cidre jusqu'à temps que la pipe fût pleine. Et cela tout seul. C'était de l'ouvrage, je vous assure, ben de l'ouvrage, et une pipe de cidre perdue. Mais qu'est-ce que vous voulez? Quand faut, il faut. Il était que temps du reste, car les Prussiens vinrent le lendemain et n'y virent que du feu. Et voilà, l'autre est là-dedans depuis ce temps-là. J'ai point osé l'enlever. En ce moment, le facteur apparut à la porte du cellier. « Bonjour, maître Lormeau et la compagnie, » dit-il. « Bonjour, mon gars. »« Un beau temps, maître Lormeau. »« Mais chaud, mon gars. »« Oui, ben chaud, maître Lormeau. » Tu m'aurais ben un coup de cidre, mon gars. Oh, c'est pas de refus, maître Lormeau. Eh ben, mon gars, va t'en chercher à la maison une vrille et un pot. Je vais t'en faire goûter un comme t'en as jamais bu. Va! Au bout de quelques minutes, le facteur revint, apportant la vrille et le pot. Mais Lormeau avait pris un fausset. Il se mit à percer la pipe de cidre, et le cidre jaillit en un petit filet mince et remplit le pot. Après quoi, le fermier boucha le trou qu'il venait de faire dans la pipe avec le fausset. « Bois ça, mon gars !» dit-il au facteur en lui tendant le pot plein jusqu'au bord. « C'est du pur jus !» Le facteur salua, sourit, essuya ses lèvres du revers de sa main. « À votre santé, maître Lormeau, et la compagnie » dit-il. Mais il avait à peine avalé une gorgée, qu'il s'arrêta, fronça le sourcil et fit une grimace. « Eh ben quoi, mon gars ?» dit maître Lormeau. « Ça va point ?» Le facteur considérait le cidre. « Oui, c'est du bon cidre, » fit-il. « Bien sûr que c'est du bon cidre, mais c'est drôle. Il a un goût, quasiment comme mes bottes. » Sauf votre respect que je vous dois.